La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec nos esprits libres ce matin sur Radio Classique à 8h39, j'ai nommé Maître Sophie Obadia et Marc Lambron de l'Académie française. Bonjour.
Bonjour David. Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin, un 8 mai. On va faire un peu de droit aujourd'hui, un tout petit peu. Hein. Le Conseil d'État vient de valider la possibilité pour Rima Hassan, la candidate et les filles aux européennes, de tenir une conférence dans la très tranquille université Paris-Dauphine. En clair, les gauchistes et les étudiants pro-palestiniens risquent d'aller semer le désordre dans cette université réputée. Sophie, un mot sur le contexte et surtout sur la décision du Conseil d'État qui confirme celle d'un tribunal administratif saisi par l'université qui n'avait aucune envie de devenir un deuxième Sciences Po.
Oui. Effectivement, l'université avait plaidé que la réunion excéderait les missions de l'établissement en disant que, et je le pense moi, que l'université ce n'est pas forcément qu'un lieu de débat, c'est aussi un lieu d'enseignement, et qu'elle pourrait voir remis en cause sa neutralité. Mais en réalité, le Conseil d'État considère que les motifs sécuritaires allégués ne sont pas avérés. C'est comme s'ils étaient presque imaginaires, c'est comme si l'université prétend que peut-être il pourrait y avoir un trouble à l'ordre public et que ça n'est pas suffisamment démontré. Donc c'est une décision assez attendue, hein, qui n'a rien d'original, mais qui effectivement laisse penser que l'on va mettre de l'huile sur le feu et qu'il ne tiendra maintenant qu'à LFI d'organiser tous les jours, un débat dans une université.
Parce que la traçabilité de cette décision, d'abord du tribunal administratif validé par le Conseil d'État, c'était l'intuition du président de l'université de Paris-Dauphine qui avait réuni son conseil exécutif, leur a demandé est-ce qu'on autorise ou pas, recours, etc. etc. Alors que fait le Conseil d'État, monsieur le conseiller d'État Lambron ?
Honoraire.
Ah, honoraire.
Oui, je trouve bien répressif ce matin. Eh bien, en France, liberté d'expression, liberté de réunion. Qu'est-ce qui peut faire que l'on y déroge ? C'est qu'il y ait un risque de trouble à l'ordre public. Bon, en l'état, rien ne prouve que cette réunion va occasionner de tels troubles. En revanche, s'ils surviennent, le précédent sera créé. Et là, le juge administratif, pour les réunions suivantes, pourra se prévaloir de ce précédent pour, en effet, les interdire ou confirmer l'interdiction de réunion qui aura été prise par un président de l'université. Voilà, le schéma, il est assez simple.
Ça veut dire que pour les honorables conseillers de tribunaux administratifs et conseillers d'État, les mêmes causes d'envahissement universitaire ne produisent pas les mêmes effets à coup sûr, en vérité. Même si les acteurs sont les mêmes, hein, c'est-à-dire LFI, les gauchistes, les pro-palestiniens.
Mais c'est le à coup sûr qui pose
c'est
problème.
C'est le à coup sûr qui pose un problème.
Vous n'en êtes pas certain, et dans le régime des libertés publiques, le à coup sûr n'est pas certain. Mais s'il se révèle, s'il s'actualise, à ce moment-là, le précédent créé pourra donner ensuite des armes pour l'interdiction des réunions similaires.
Lambron contre Obadia. Que dit maître Sophie Obadia ?
Non, je dis qu'effectivement, ils ont montré patte blanche en disant qu'ils allaient assurer la sécurité, des inscriptions préalables, contrôle des entrées dans la salle, puisqu'il y avait eu le précédent à Sciences Po, dispositif, alors là, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, de modération de la parole, et qu'aucun propos illicite, c'est-à-dire antisémite, ne sera toléré. Et c'est là la question. C'est-à-dire que si un propos antisémite est proféré, on ne pourra pas l'empêcher, mais ça créera le précédent pour la prochaine réunion. C'est ce que vous dites.
Oui, autrement dit, on donne une chance.
Oui,
Et la survenance de troubles n'est pas une donnée prédictive.
On est d'accord.
C'est une donnée actualisable.
Donc on tente une fois le coup.
Si elle survient, c'est ça le principe.
Alors, on entend depuis maintenant quelques semaines, avec Sciences Po, avec la Sorbonne, l'École supérieure de journalisme de Lille, on entend dire « l'université n'est pas un lieu de militantisme, on peut aussi accessoirement y enseigner ». L'histoire montre que l'université a toujours été un lieu de militantisme politique, et notamment pour les étudiants de gauche, mais les étudiants de droite ont-ils occupé des universités ? Vous avez ça en mémoire, Marc Lambron, ou pas ?
Bon, j'ai en mémoire l'activisme du GUD Assas, qui était quand même une ruche de l'extrême droite, et il y avait de la baston, comme disent les jeunes. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Et même au Moyen-Âge, vous regardez l'histoire des universités...
Avant de monter jusque-là.
Ben, vous remontez au Moyen-Âge, bien sûr. Les troubles ne sont pas d'aujourd'hui. Et il y avait les monômes, qui étaient une forme gentille. Et puis, il y avait...
Qu'est-ce que c'est que les monômes ?
Ben, les monômes, c'était des manifestations, des défilés un peu bruyants d'étudiants qui étaient dans la tradition, qui sont un peu perdus d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, non, mais oui. Que ça existe, ça, c'est une certitude. La difficulté, c'est le blocage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à étudier et à passer des examens? C'est ça, la difficulté. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudra, comment dire, réguler le temps consacré au débat au regard du temps consacré à l'enseignement.
Il y a quand même quelque chose de choquant à passer devant les grilles de l'Institut d'études politiques de Paris, rue Saint-Guillaume, et d'y voir un jour sur deux des chaînes fermées, des portes qui sont habituellement fermées uniquement à clé ou qui sont ouvertes avec un contrôle d'appariteur.
Moi, je suis passé hier devant la rue Saint-Guillaume, ce qui m'a frappé, c'était les cars de CRS qui y sont, qui y stationnent. Moi qui étais élève de cet institut, à l'époque des Loden, à l'époque des Church, à l'époque des cravates, à l'époque des... Alors là, les temps ont changé. Et d'ailleurs, je me suis demandé si on ne passait pas de la rue Gay-Lussac à la rue Saint-Guillaume. C'est la question, nous sommes en mai. Sommes-nous en mai 68, sommes-nous en mai 2024, que va-t-il se passer?
Alors justement, c'est votre sujet du jour. Vous avez envie de comparer mai 68 et mai 2024. Réaction d'abord de Sophie Obadia.
La comparaison, je ne la vois pas. J'ai l'impression qu'on vit dans deux époques différentes, mais je suis sûr que vous allez nous apporter quelques éléments.
Alors, d'abord, c'était il y a 56 ans.
Oui.
Donc, quelqu'un qui avait 20 ans en mai 68, il a 76 ans aujourd'hui. Ok, boomer. Et il vote Macron, d'ailleurs, en général. Moi, je verrais quand même un point commun, c'est que en mai 68 comme en mai 2024, il y a tout de même des convulsions sociales, avec un clivage social. C'est-à-dire qu'en mai 68, vous aviez d'un côté les étudiants, de l'autre côté, les ouvriers, et la jonction s'est mal faite. Comme a dit Régis Debray, les uns voulaient être les étudiants, les autres voulaient avoir les ouvriers. En 2024, il y a toujours, à mon avis, ce clivage dans la société française. D'un côté, vous avez les wokistes islamo-gauchistes qui occupent Sciences Po, qui sont plutôt des petits bourgeois ou des enfants de bourgeois. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est-à-dire, ou dernières années, les gilets jaunes ou la révolte des agriculteurs. Donc il y a toujours cette scission, cette opposition entre l'être et l'avoir, entre la petite bourgeoisie étudiante et ce qu'on appelle désormais la France périphérique.
Vous n'y ajoutez pas les émeutiers, Marc Lambron, les émeutiers de l'été dernier?
Et les émeutiers étaient de juillet, oui, après la mort de ce jeune homme.
Ça suffit à refaire un mai 68, à le transformer en mai 2024, tout ça?
D'une certaine manière, c'est à la fois moins et plus grave, parce que moi je vois deux différences. C'est que ce qui se passe aujourd'hui ne se fait pas sur fond de croissance, ce qui était quand même le cas, mais de crise économique. Donc il pourrait être un facteur d'aggravation. Deuxièmement, il y a une chose qui n'existait pas en mai 68, c'était la montée d'une extrême droite qui, à l'époque, était quand même résiduelle, parce qu'elle était hypothéquée par Vichy, elle était aussi hypothéquée par sa déconfiture au moment de la guerre d'Algérie. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les marges de redressement sont moindres en réalité. La société a moins de réserves, on n'est plus à l'os, et les lendemains pourraient déchanter.
Sophie Obadia, une réaction à cette comparaison audacieuse, comme toujours, les comparaisons et les développements de Marc Lambron.
Non, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, effectivement, les étudiants ne rencontrent toujours pas les ouvriers ni les gilets jaunes. Non. Donc en réalité, il n'y a pas d'esprit collectif, et c'est un peu ça. La grosse différence, c'est qu'on vit maintenant dans une période d'individualisme sévère, même très fatigué, cet individualisme, avec des intérêts catégoriels tous séparés les uns des autres, alors qu'il me semble, encore une fois, ça peut être un mythe, que 68, c'est quand même un élan collectif. C'est quand même un tournant sociétal vers plus de liberté individuelle. Le corps, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, mais dans un collectif. Aujourd'hui, ce collectif, me semble-t-il, est complètement évanescent.
Oui, c'est souvent plus atomisé.
Oui.
Et en effet, ce que vous dites, c'est que l'ego société qui résulterait de mai 68 nous donne, 56 ans plus tard, cette fragmentation et cette guerre de tous contre tous.
Exactement.
Qui est cet archipel catégoriel qui est devenu notre pays.
Exactement.
Accordez-vous une certaine bonne foi aux étudiants pro-palestiniens qui manifestent, qui s'abstiennent des slogans parfois ou des sorties antisémites utilisées assez exceptionnellement par certains, en tout cas devant les caméras et quand les journalistes sont là. Est-ce que vous estimez quand même que les étudiants, certes ils ont le droit, mais qu'il y a une certaine bonne foi, certains bien fondés à défendre cette cause palestinienne, si on ne le fait pas à 20 ans, on ne le fera pas à 70, quoi.
Oui, oui, non, mais ça, évidemment. Sur un fond général d'anxiété, où effectivement la fin du monde est promise à la jeunesse, et où évidemment ils ont envie de servir ceux qu'ils considèrent comme des peuples opprimés, et c'est tout à fait légitime qu'ils s'intéressent aux Palestiniens. Ça, j'y vois aucune difficulté. Après, ce sont les dérapages et l'instrumentalisation politique qui me dérangent.
Le point commun, ça serait le désir, la recherche de la bonne victime. En 68, la bonne victime, c'était le Vietnamien, c'était le Nord-Vietnamien. Et c'était encore plus fort aux États-Unis, en ce sens que le pays était en guerre contre, ou aux côtés du Vietnam du Sud, contre le Vietnam du Nord, et que la jeunesse prenait parti, en réalité, contre son pays, et contre la conscription.
Donc l'emblème du Sud global en 68, c'était le Vietnam, opprimé par les Américains, oui, dans le cadre d'une lutte d'influence quand même, oui, avec les communistes, qui n'étaient quand même, oui, pas détendre. Et aujourd'hui, ce serait...
Le Palestinien.
Bon, manipulé par le Hamas.
Avec le même ennemi, les États-Unis.
Dont les visées ne sont pas très démocratiques, disons les choses.
Ben voilà, c'est-à-dire quel rapport y a-t-il entre le Nord-Vietnam tel qu'il était et le Hamas. Le Vietnam a donné les boat people, on verra ce que donne le Hamas pour les Palestiniens.
Sophie Obadia, vous avez lu hier un long article dans le Figaro qui nous annonce un festival de Cannes sous tension et peut-être perturbé, lui non pas par un mouvement pro-palestinien, mais par le mouvement MeToo. Cannes, ça commence dimanche et ça pourrait mal commencer.
Ah, très mal, puisque le teasing annoncé, c'est « dis non ». Oui, oui, teasing. Pardon, monsieur l'académicien, je suis obligé de dire, puisque nous sommes au Festival de Cannes, que tout cela nous vient effectivement de la culture américaine. C'est-à-dire qu'on considère que nous allons pouvoir, sur place, juger des hommes, puisqu'on nous annonce la sortie d'une liste de « dis non ». Rien que ça, « dis non », qui seraient donc des coupables annoncés, des coupables de faits de nature sexuelle, sans qu'on nous dise lesquels d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agit d'un propos lourd, d'une main baladeuse ou d'un viol ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on nous explique que les bûchers sont déjà dressés. C'est-à-dire qu'en cas... non pas de dérapage, mais lorsque cette liste va sortir, si l'acteur ou le producteur en question a un projet à présenter à Cannes, un film, eh bien, il y aura une gradation de la sanction. C'est-à-dire qu'on pourra immédiatement lui demander de sortir, de ne pas venir, ou bien de ne pas monter les marches, ou bien même la diffusion, la projection de son film sera annulée. C'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant, c'est-à-dire sans même qu'on sache exactement de quoi il retourne, eh bien, on nous dit, voilà, le bûcher est dressé, tout ça a été vu par l'organisation du Festival de Cannes avec des communicants, ils seront punis en passe publique devant tout le monde. Alors c'est très très alarmant, mais en même temps, je ne suis pas très étonnée. Hein. Je ne suis pas très étonnée puisque... alors cette liste est sortie, hein, mais il n'est pas question évidemment ici de parler des noms qui sont murmurés, puisqu'il s'agit d'une rumeur à ce stade. Mais ce que je voudrais dire, et pourquoi ça m'indigne, c'est qu'en réalité, la lenteur judiciaire que nous payons depuis des dizaines d'années maintenant, eh bien, nous conduit directement au peloton d'exécution en place publique. Ça me pose un réel problème.
Vous qui êtes juriste, évidemment.
Oui, avocate. C'est-à-dire que je considère que la justice n'a pas été à la hauteur pour ce qui concerne les faits de nature sexuelle, les faits graves de nature sexuelle, c'est-à-dire les agressions sexuelles et les viols. Et alors aujourd'hui, au lieu de reprendre le lead et d'aller plus vite et de traiter les plaintes, non, on s'efface et on laisse Judith Godrèche enquêter. Ça me pose un problème.
N'oublions pas de rappeler, c'est un document de l'Observatoire des prisons qui paraît chaque année, que le viol, l'agression sexuelle sont la quatrième cause d'emprisonnement en France. Donc ça n'est pas rien.
Ah mais non.
On emprisonne, on punit, on juge, alors peut-être pas assez, mais bon, il y a le trafic de drogue, évidemment les crimes.
Comme le dit le maître Obadia, c'est que nous sommes dans l'infrajuridique, c'est-à-dire c'est le corbeau à l'heure de MeToo, oui, le corbeau de Clouseau, j'entends, parce qu'on parle de rumeurs. Alors vous voyez en ce moment une espèce de blindage de communication autour du festival, une sorte de macartisme préventif, alors qu'en effet, aucune plainte en justice n'est déposée, comme si une sorte de Pearl Harbor sexuel allait balayer la croisette.
Ce qui est choquant, c'est cette liste qui circule, les listes circulait en 36 au moment des purges staliniennes, et elle circulait sous le macartisme.
Oui, en même temps, je vais vous dire, tout ça m'agace, parce que ça relève une fois de plus de l'entre-soi du cinéma, qui sait très bien s'auto-glorifier, vous voyez, les Césars, et qui s'auto-accuse, comme si on devait se faire justice soi-même. Autrement dit, c'est une logique de western. Et vous avez ces donneurs de leçons qui fourmillent dans le cinéma français, bien pensants, opportunément progressistes. Alors, seraient-ils en fait des abuseurs pervers ? Est-ce qu'on va passer de donjon à Tartuffe ? C'est la question. La victime de tout ça, c'est le charme. Parce que personne n'a jamais accusé de grands charmeurs comme Louis Malle ou Marcello Mastroianni d'être des Dracula ou des Gilles de Rais. Et il y a peut-être aujourd'hui une autre génération, pas de nom ici. Nous n'allons pas naming names, comme on disait à l'époque du maccartisme, ceux qui donnaient des noms. Mais nous allons voir, et puis aussi, qui sont précisément les corbeaux, quelles sont les éventuelles officines journalistiques qui détiendraient ces noms, avec quelles preuves, avec quelle intention, et surtout avec quels résultats en justice. Parce que nous sommes, rappelons-le, nous sommes deux juristes ici, personne n'est parfait, nous sommes dans un état de droit.
Ça m'évoque les marches rouges et le tapis rouge de Cannes, il y a un côté un peu sacrificiel, vous savez, les Incas et les Aztèques faisaient leur sacrifice du haut de leur pyramide, et le sang coulait, le nom des marches, c'était fait pour impressionner la foule. Il y a un côté sacrificiel aussi, et expiatoire à ce que MeToo explose à nouveau pendant le Festival de Cannes.
Oui,
et
puis attention, il y a quand même il y a un sous-texte. Les plateformes américaines qui aujourd'hui financent beaucoup le cinéma français exigent ce type de comportement, c'est-à-dire d'être plus blanc que blanc. Des formations doivent être suivies par tous les producteurs et les acteurs sur les infractions sexuelles. Enfin, on leur demande de collaborer à ce nouveau projet MeToo. Et donc, effectivement, le cinéma français s'y plie parce qu'il en va aussi de son économie.
Marc Lambron.
Mais David Abiker voit le Festival de Cannes donc, comme une cérémonie aztèque ou un cas.
C'est une belle production.
C'est une vision inédite, mais qui est à méditer. Et on pourra en parler à Samuel Blumenfeld et aux spécialistes de cinéma de Radio Classique.
Marc, le monde des lettres, le monde du français, que vous défendez si bien, a perdu... Oh là là, son père, son grand-père, son grand-frère lundi, Bernard Pivot, nous a quittés. Ça ne pouvait pas vous laisser indifférent. Et il était lyonnais, il aimait les livres. Vous êtes lyonnais, vous écrivez des livres. Il était président de l'Académie Goncourt, si je me souviens bien. Vous êtes académicien. Bref, je ne pouvais pas terminer cet Esprit Libre du mercredi sans vous demander une forme d'hommage ou un souvenir ou un portrait même.
Je vais vous parler d'écureuil. C'est que le père de Bernard Pivot, ses parents, tenaient une épicerie dans le 6e arrondissement de Lyon, près du parc de la Tête d'Or. D'ailleurs, Pivot aimait raconter une anecdote, c'est qu'il, adolescent, il livrait, il aidait ses parents, il faisait des livraisons à domicile, et un jour, chez les bourgeois de Lyon, il entend l'homme ouvre, et il entend la dame qui dit « lui donne pas de pourvoir, c'est le fils du patron ». Et alors, une fois veuf, le père de Bernard Pivot se rendait tous les jours sur une pelouse du parc de la Tête d'Or et il nourrissait des écureuils. Et j'avais dit à Pivot, au fond, vous faites un peu la même chose que votre père, c'est-à-dire vous nourrissez des écureuils littéraires et vous les faites tourner dans votre roue avec le talent que l'on sait. Voilà. Alors Lyon, en quelques semaines, a perdu Gérard Collomb, a perdu Bernard Pivot. Ce sont des figures, évidemment, qui importaient. Et voilà, je revois Bernard sur la scène de l'Opéra de Lyon, par exemple, pour une de ses dictées. Et puis je le revois sur ses plateaux, ce rituel du vendredi soir que nous avons perdu.
L'homme qui nourrissait des écureuils, ce pourrait être une nouvelle signée Marc Lambron en hommage à Bernard Pivot et son papa. Mes amis, je vous remercie d'être venus travailler un 8 mai un peu chargé de sujets militaires alors que nous sommes censés célébrer la paix aujourd'hui. Alors je vous propose de nous quitter avec une chanson hybride, mélange de marseillaise et de pop anglaise.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.